Je vous invite donc à deux lectures pour cette prédication. La première lecture vient de Romains, chapitre 15. Aussi, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ lui-même vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je dis que le Christ est devenu serviteur des circoncis pour la vérité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les non-juifs glorifient Dieu pour sa compassion, ainsi qu'il est écrit « C'est pourquoi je te reconnaîtrai parmi les nations et je chanterai ton nom ». Il dit encore « Nations, soyez en fête avec son peuple » et encore « Louez le Seigneur, vous toutes nations, que tous les peuples louent ». Ésaïe dit encore, « Il paraîtra, le rejetant de Jessé, celui qui se lèvera pour commander aux nations, les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. » Amen. Puis la deuxième lecture, je vais peut-être pas préciser que je suis au service biblique de la Fédération. Il nous propose entre autres un calendrier que vous avez à la porte, la Bible en 6 ans, qui nous guide dans la lecture de toute la Bible. Et notre deuxième lecture, c'est une lecture qu'on rencontre peut-être seulement quand on a cette discipline de lire toute la Bible. Vous allez peut-être voir. C'est une lecture du livre de la Genèse, chapitre 21, à partir du verset 22. Genèse 21, 22. En ce temps-là, Abimélec, avec Picol, le chef de son armée, vint dire à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Maintenant, jure-moi ici, par Dieu, que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni ma progéniture, ni ma postérité, et que tu montreras envers moi et envers le pays où tu as séjourné en immigré, la même fidélité que j'ai montrée envers toi. » Abraham dit, « Je le jure. » Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits dont les gens d'Abimélec s'étaient emparés de force. Abimélec dit, « Je ne sais pas qui a fait cela, toi tu ne me l'avais pas rapporté, et moi-même je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Alors Abraham prit du petit bétail et du gros bétail, qui donna à Abimélec, puis ils conclurent une alliance tous les deux. Abraham plaça à part cette brebis du troupeau, et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette brebis que tu as placée à part ?» Il répondit, « Tu prendras ces 7 brebis, ce sera pour moi un témoignage que c'est moi qui ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on a appelé ce lieu Bersabé, puits des 7 ou puits du serment. Car c'est là qu'ils prêtèrent serment l'un à l'autre. Ils conclurent donc une alliance à Bersabé. Après quoi, Abimélec et Picol, le chef de son armée, retourna au pays des Philistins. Abraham planta un tamaris à Bersabé. Il invoqua le nom du Seigneur, Dieu de pérennité. Abraham séjourna longtemps en immigré au pays des Philistins. La brutalité des actes terroristes du début de l'année et puis l'élan de solidarité qui a suivi ont remis sur le devant de la scène l'enjeu de la fraternité. Comment vivre ensemble sur un même territoire, dans une même société? Et comment vivre cette fraternité quand le terrorisme vise à fragiliser nos liens et semer la méfiance? Le président de la Fédération protestante de France, François Claveroli, a placé les vœux de la Fédération protestante du début de l'année en présence du ministre de l'Intérieur et son message d'orientation à l'Assemblée générale de la Fédération protestante sous le thème de la fraternité. Nous savons bien que l'Église est un lieu où nous cherchons à vivre la fraternité. Une fraternité renouvelée en Christ. Le Christ qui nous fait naître dans une nouvelle famille, par la foi, qui nous donne une nouvelle appartenance, qui nous permet de démanteler les barrières, surpasser les différentes barrières dans la société humaine. Ça, nous sommes sur un terrain sûr. Mais qu'en est-il de l'expression de la fraternité humaine, en dehors de l'Église? Quelle place accordons-nous au vivre ensemble dans nos quartiers, nos villes? Quel devait être le rôle de l'Église chrétienne dans l'apaisement des tensions, dans la résolution des conflits, dans l'expression d'une fraternité bienfaisante dans la société? Vous connaissez Abraham. Dieu a promis à Abraham de faire de lui une bénédiction pour toutes les nations. Tous les clans de la terre se béniront par toi, nous lisons. Nous comprenons, et le Nouveau Testament nous donne raison, que l'accomplissement ultime de cette promesse donnée à Abraham était en Christ, se trouve en Christ aujourd'hui, et dans la proclamation de l'Évangile de Christ à toutes les nations. Cependant, si nous continuons à lire le livre de la Genèse, à côté du récit principal qui trace la première réalisation de la promesse à Abraham dans la naissance d'un fils, le fils de la promesse, mais nous nous rencontrons à côté de cela des scènes de la vie d'Abraham où lui, il doit vivre dans son actualité en rapport avec des représentants des autres nations. Et dans le récit que nous avons lu, Abraham va conclure une alliance avec un certain Abimélec en présence du chef de son armée, ce qui n'est pas neutre. De conclure des choses devant le chef de son armée, c'est important. Alors, qui était ce roi Abimélec? Selon la Genèse, Abraham a déjà eu affaire avec lui. Il était le roi de Guérar. Abraham l'a même trompé en faisant passer sa femme Sarah pour sa sœur. C'est la deuxième fois qu'il a fait ce genre de choses, cette fois auprès de ce roi Abimélec. Toutefois, ce roi Abimélec avait invité Abraham à rester et à s'installer sur son territoire, malgré cette tromperie. C'est très beau. Le roi païen a accueilli Abraham, qui avait eu un comportement un tout petit peu douteux. Et le récit fait comprendre que c'est par cette bienveillance d'un roi païen que Abraham a eu un lieu pour accueillir en toute sécurité la naissance de son fils Isaac. Alors cet arrière-plan éclaire la démarche d'Abimélec dans notre texte. Le temps est passé. Il voit Abraham prospérer, il voit sa maison s'agrandir, il y voit même la main de Dieu et il prend peur. Est-ce qu'Abraham va devenir trop grand dans ce pays? Restera-t-il pour toujours un ami pour Abimélec? Et c'est pourquoi Abimélec demande à Abraham de jurer devant Dieu qu'il ne le trompera pas, qu'il respectera l'accueil qu'Abimélec lui a montré. Et Abraham le lui promet. Première scène, première partie de ce récit. Et déjà, il y a quelque chose peut-être que nous pouvons comprendre dans nos relations fraternelles dans la société humaine. Le temps, les changements d'équilibre dans ces relations sociales peuvent fragiliser les accords et les acquis du vivre ensemble. Pas peur, pas non-dit. Il est donc important de vérifier ces acquis de bonne entente, de les renouveler, de les redire, afin de rassurer et actualiser les liens qui existent déjà entre nous. Y sommes-nous attentifs? C'est un rôle pour nous. Abraham renouvelle donc sa promesse d'amitié en tant qu'immigré dans le pays, mais il est après froissé par ce qui lui paraît comme une démonstration de force. Les hommes d'Abimélec ont pris un puits, nous pouvons comprendre qu'ils empêchent l'accès à l'eau, à l'entourage d'Abraham. Abraham s'en offusque, qui fait des reproches à Abimélec, qui croit derrière cette action de ses hommes. Mais le texte voit qu'établir la responsabilité n'est pas aussi simple. Abimelech n'était pas au courant. Abraham, lui, a pas dit. Abimelech n'est pas intervenu, non parce qu'il s'associait aux actions musclées d'un petit groupe de ses hommes, mais parce qu'il ignorait l'incident et qu'Abraham ne lui avait pas communiqué. Et là, nous pouvons peut-être aussi comprendre l'importance de la vigilance, de la vérification, de la communication informée quand arrivent des incidents inévitables dans la vie de nos quartiers, dans la vie de nos copropriétés, nos écoles, qui mettent en péril les rapports établis parfois entre communautés entières. Le troisième élément de ce récit un peu complexe, l'échange de bétail pour sceller l'alliance entre les deux hommes et pour expliciter à qui appartenait le puits, est un peu complexe. Nous pouvons retenir que les cadeaux, le nom donné au puits, cette référence aux brebis, rend témoignage. Tout cela rend témoignage à l'accord conclu entre deux chefs. C'est-à-dire que ce qui était une relation entre deux hommes devient public, devient contractuel, officiel, devant le monde. Et il y a un temps pour officialiser, pour publier les dialogues, les alliances, les contrats entre les différents acteurs de la société, pour garantir, pour pérenniser la fraternité humaine. Et on a niveau interne, j'étais vendredi à la signature d'une déclaration de 6 groupes de scouts dans le protestantisme. Il y a de nombreux mouvements de scouts dans le protestantisme et depuis 15 ans, ils travaillent à leur rapprochement et vendredi, ils ont signé avec une sorte de conférence de presse un accord, une déclaration de travailler, œuvrer ensemble, vraiment. Et ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est connu que ces 6 mouvements de scoutisme travaillent ensemble. Voilà donc pour ce récit. Est-ce qu'on peut dire encore quelque chose? C'est un récit qui s'inscrit dans l'histoire d'Isaac, le fils donné à Abraham et à Sarah dans la vieillesse, celui par qui la promesse de Dieu allait se réaliser. Cet incident autour du puits suit le récit de la naissance d'Isaac et tout de suite après, c'est le récit très connu où Dieu appelle Abraham à sacrifier son fils. Vous connaissez la suite, il ne le fait pas. Nous pourrions nous poser la question, quel est donc ce rôle de quelque chose d'extrêmement anodin entre le récit de la naissance et ce grand récit de la demande de sacrifier Isaac? Au plus simple, ça fait passer le temps. Parce qu'entre la naissance et puis quand le récit où Abraham va marcher avec son garçon et il se parle, le temps a passé. Mais nous pouvons dire que c'est peut-être plus important que cela, que simplement passer le temps. Car quand on arrive à la vie d'Isaac, cet incident qui a eu lieu dans la vie d'Abraham va se répéter dans la vie d'Isaac. Et Isaac va avoir une dispute autour de puits et conclure une alliance avec Abimelech. Et cela donne une perspective à long terme, à la relation entre Abimelech et Abraham dans notre texte. La fraternité négociée du père avec son hôte donnera le cadre pour les futures relations du fils dans le pays. C'est en tout cas ce que suggère cette répétition dans le livre de la Genèse. Les relations fraternelles humaines, respectueuses, apaisées, connues de tous, ouvrent l'avenir. Donnent quelque chose de sûr, de sécurisé pour élever les enfants et aller vers l'avenir. En effet, selon le texte de la Genèse, Isaac va rester longtemps à Beersheba, ce lieu de notre texte. Un nomade sédentaire, son patrimoine oui, mais sédentaire, qui avait besoin donc de l'accès à l'eau à long terme. Des tensions avec le clan d'Abimélec auraient menacé ou déplacé cette petite famille, la famille de la promesse de Dieu. Et donc nous pouvons voir que les relations durables dans la société ouvrent un espace de vie et une perspective aux générations futures. Et dans le récit biblique, est dans le cadre pour l'avancement du projet de Dieu pour le salut de l'humanité. Mais revenons au père, Abraham, et le texte que nous avons lu. Quand Abimélec et Picol, le chef de l'armée, repartent, quand Abraham est laissé seul, nous lisons ceci. Abraham planta un tamarisque. Il invoqua le nom du Seigneur, Dieu de pérennité. Le texte fait état d'un moment spirituel fort et marquant dans la vie d'Abraham. Il invoque, il prie le Seigneur, le Dieu de l'Alliance, par un nom qui apparaît pour la première fois dans la Bible, le Dieu de pérennité. Certaines traductions disent éternité, mais j'aime bien cette pérennité. Ce nom n'est pas souvent utilisé dans la Bible. Il revient, par contre, dans un texte clé, chapitre 40 du prophète Ésaïe. C'est le Seigneur, le Dieu de pérennité, qui crée les extrémités de la terre. Il ne s'épuise ni se fatigue. Son intelligence est insondable. Voici donc une perception de Dieu qui inspire la louange, la prière. Une perception d'un Dieu qui se maintiendra dans la durée, qui ne faiblira pas, qui ne sera pas ni usé par les siècles, ni dépassé par les événements. Le Dieu de pérennité en qui nous pouvons alors mettre notre confiance, notre espérance, non seulement pour notre avenir, mais pour l'avenir de notre monde. Voici une confession de foi en Dieu, le Créateur de l'univers, garant de son univers, son avenir, qui veille sur les extrémités de la terre, qui ne sera jamais pris au dépourvu. Nous pouvons lui confier notre petite vie. Et pour accompagner cette prière, cette confession de foi, un geste. Abraham, le nomade, plante un arbre. Il s'enracine là où il invoque le Dieu de pérennité. Il plante un arbre pour manifester sa confiance que Dieu le préserverait, que Dieu lui donnerait un lieu de séjour où vivre en sécurité et que Dieu accomplirait sa promesse pour sa famille et pour toute l'humanité. Et nous pouvons nous étonner qu'un tel moment spirituel fort, une telle confession de foi, suive le récit d'une résolution d'un conflit avec un roi païen autour d'un puits. Est-ce que nous pouvons aller jusqu'à conclure que Abraham appréhende le Dieu de pérennité justement dans cette expérience de relation sociale apaisée, qui permettent de vivre ensemble, qui ouvre l'avenir, notamment pour son fils Isaac? Ce récit, en tout cas, me semble-t-il, peut nous dire que Dieu se manifeste non seulement dans l'histoire de la communauté de foi, mais aussi, peut-être plus discrètement, dans les bonnes relations que cette communauté de foi entretient avec les autres communautés humaines. Abraham plante un arbre parce qu'il aperçoit le temps de Dieu, la pérennité de Dieu, et il espère. Et c'est pour dire que nous consacrer individuellement ou en tant qu'Église à la fraternité humaine, au vivre ensemble dans notre pays, dans nos quartiers, dans la rencontre et le dialogue avec les différentes communautés religieuses ou autres, n'est pas forcément une distraction de la mission de l'Église, ni un gaspillage de notre temps. Au contraire, l'engagement pour la paix sociale pourrait élargir même notre vision de Dieu et agrandir notre espérance. Encore un dernier détail. Laissons-nous interroger par ce personnage d'Abimélec qui occupe tant de place dans le livre de la Genèse finalement. Il apparaît 4 fois. Notre texte, par un bel anachronisme, l'associe aux Philistins, le grand ennemi du peuple d'Israël à l'époque de Saül et de David. Souvenez-vous de David et de Goliath. Là, c'est les Philistins. Alors, que suggère notre texte? Que la communauté de la foi biblique, pour nous, l'Église de Jésus-Christ, ne peut se construire que dans les relations apaisées avec les autres communautés humaines, même celles avec qui il existe des histoires de conflits. La bénédiction promise à Abraham était pour toutes les nations. Parfois, nous devons vivre ça dans l'Église très fortement, car c'est là où nous sommes réunis, les gens de toutes les nations, déjà en fraternité en Christ. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons ignorer le sort de toutes les nations à côté de nous, dans l'humanité. Et ça peut changer aussi. Et que notre engagement pour le vivre ensemble, la fraternité, soit fort dans l'Église, mais aussi dans la société. Œuvrer pour des relations réconciliées, apaisées, ouvre l'avenir, pérennise nos projets, renouvelle notre espérance. Et je vous termine avec, en revenant à ce texte de Romains. Aussi accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ lui-même vous a accueillis pour la gloire de Dieu, et que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.